aller se coucher.
On n'est pas des cadeaux, l'émission Transpédéguine est féministe.
On ne naît pas hétérosexuel. On le devient pas toujours.
Le genre, ça se construit, le corps aussi.
Transpédéguine.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
Rêve de princesse, vie de cauchemar.
On n'est pas des cadeaux. Une émission transpédéguine et féministe.
Sur Radio Canu.
La plus des radios.
La plus rebelle des radios.
Votre hétérosexisme n'a fait que nourrir notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitier, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcal, capitaliste, raciste, nourri de la domination des unes sur les autres.
Une émission Transpédéguine.
Enfin, surtout Transpédéguine.
Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va parler, on va faire un petit compte-rendu des assises dans notre émission On n'est pas des cadeaux. Et puis tout de suite, on va passer aux infos. Les infos.
Tout le monde se rue sur nous, mais notre patience est à bout. Qu'on aime une fille ou un gars, cela ne vous regarde pas.
Alors, pour commencer, on va parler d'une baisse des subventions pour toutes les associations de lutte contre le sida. Donc, c'est publié avec plus d'un an et demi de retard par Roselyne Bachelot, le plan national de lutte contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles, comporte des mesures importantes comme la proposition généralisée de dépistage et des actions ciblées vers les populations plus particulièrement touchées par l'épidémie du VIH-SIDA. Alors que les coûts des actions à mener augmentent, le ministre de la Santé vient d'arbitrer des baisses de financement pour toutes les associations de lutte contre le VIH et les IST. Ces baisses, annoncées par la Direction Générale de la Santé, vont jusqu'à 14%, ce qui est assez énorme dans un budget d'association. Elles touchent toutes les associations et la DGS va rompre certains partenariats en cours et précise qu'elle n'envisage plus d'en conclure de nouveaux, donc plus de nouvelles associations. Ces coupes de budget entraînent des procédures de licenciement dans les associations sur des programmes de destination des populations les plus exposées au risque de transmission. Au-delà de la prévention, ces restrictions vont aussi compromettre des actions sociales d'accès aux soins et aux droits et d'éducation thérapeutique en direction des personnes vivant avec le VIH ou une hépatite. La responsabilité du gouvernement, et plus particulièrement celle de Xavier Bertrand, est engagée quant aux conséquences directes et indirectes de ces politiques budgétaires. Ces conséquences s'évaluent en termes de nouvelles contaminations, d'exclusion et d'échecs thérapeutiques. Alors que l'année 2011 est labellisée entre guillemets, année des patients et de leurs droits par le ministre Xavier Bertrand, les personnes vivant avec le VIH vont pâtir des arbitrages budgétaires de Xavier Bertrand. De plus, le ministre a sous-entendu qu'il y aurait des nouvelles baisses en 2012. Donc, toutes les assos exigent les moyens indispensables à un travail efficace. Quand je dis toutes, c'est vraiment, il y a Action Traitement, Act Up Paris, Act Up Sud-Ouest, Aide ALS, et Inter-LGBT, le Planning Familial, le Refuge, SIDAction, énormément d'associations qui ont signé ce texte-là, qui est le texte que je viens de lire.
Une autre info qui concerne une déclaration qui a été signée, une déclaration du Conseil des droits de l'homme à l'ONU, qui a été signée mardi dernier par 83 États et qui dit, je cite, « Nous exprimons notre préoccupation face à la persistance d'éléments attestant dans chaque région d'actes de violence et des violations des droits de l'homme qui y sont liés, fondés sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, y compris les meurtres, le viol et la torture. Et donc ça c'est plutôt cool, mais dès mardi soir, il y a eu une réaction, celle de l'archevêque de Silvano Tomasi, qui est représentant du Vatican aux Nations Unies, qui a dit « Des gens sont attaqués parce qu'ils prennent des positions qui ne sont pas en faveur des comportements sexuels entre personnes de même sexe, quand ils expriment leurs convictions morales et les idées de leurs idées de la nature humaine, qui peuvent être aussi des expressions de leur foi religieuse, on les stigmatise, et plus encore, on les vilipende, on les poursuit en justice. » Donc, un peu un retournement de l'argument de l'homophobie, en disant que, pour lui, c'est les homophobes qui sont aussi victimes de ce qu'il appelle un consensus dans toutes les sociétés contre certains comportements sexuels, en citant notamment l'inceste et la pédophilie. Donc, assez classe. Et du coup, moi, si je trouve ça intéressant, c'est pas parce que... c'est le Vatican, le pape, ou les religions, ou même les croyants, parce que c'est à la fois pas forcément significatif et un peu facile, mais c'est plutôt que c'est le truc de à mon avis, les limites de la lutte contre l'homophobie, de penser tout ça en termes d'homophobie, d'orientation sexuelle, de discrimination, et du coup, par exemple, on se rend pas vraiment compte de la violence de cette déclaration qui, elle-même, ne rentre pas dans les condamnations. Voilà.
Maintenant, on va parler d'islamophobie. Alors, après l'interdiction du voile à l'école, c'est maintenant l'interdiction de la robe longue. Je fais un petit retour en arrière parce que ça s'est passé mi-mars. Donc, c'est la polémique qui a enflé au lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen, en banlieue parisienne. C'est 4 élèves qui ont été convoqués par la proviseure adjointe parce qu'elle portent habituellement une robe longue couvrant tout leur corps. La direction du lycée l'assimile à un signe religieux ostentatoire et les jeunes filles, bien sûr, parlent de discrimination. Donc le règlement du lycée stipule ainsi que, je cite, « Conformément aux dispositions de l'article L141.5.1 du Code de l'éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu'un élève méconnaît l'interdiction posée à l'alinéa précédent, le chef d'établissement organise un dialogue avec cet élève avant l'engagement de toute procédure disciplinaire. » Donc, je cite, « Elle m'a dit, tu sais bien... que tu n'as pas le droit de t'habiller comme ça au lycée. Elle m'a montré le règlement du lycée en citant l'article sur la laïcité. Elle a ajouté qu'elle souhaitait ne plus me voir habillée comme ça au lycée à l'avenir. Je lui ai répondu que non, je ne retirerai pas ma robe. Elle a ajouté que si je refusais de la retirer, je ne serais pas acceptée en cours. Donc ça, c'est le récit d'Inès qui est en terminale STG, qui avait été convoquée le 15 mars par la proviseure adjointe. Et elle ajoute que ce n'est qu'une robe et que ça n'a pas de connotation religieuse. Donc ensuite, s'est tenue une réunion avec la proviseure, avec les parents d'élèves, les élèves et un membre d'une association qui lutte pour la Palestine et qui est aussi membre qui fait partie de la Convention des imams de France, un gars pour les soutenir. Et la proviseure revenait constamment à cet article sur la laïcité jusqu'au moment où a été évoqué le recours à la justice et à la mobilisation publique et qu'elle a finalement renoncé à son interdiction. Donc selon l'une des jeunes filles, la proviseure adjointe aurait eu en sa possession une liste des élèves à convoquer pour le même motif sur son bureau lorsqu'elle lui parlait. Donc nous sommes sûrs que cette liste existe bel et bien parce que lorsque je l'ai évoquée en réunion, elle n'a pas nié son existence. Voilà. Donc, il faut aussi dire que les élèves qui mettent le voile entre les cours, donc qui le remettent à la fin des cours et qui le retirent au début, seraient particulièrement surveillés par la direction. Ça, on n'a pas de preuves là en notre possession tout de suite maintenant, mais ça, c'est des choses qui sont ressorties plusieurs fois. Donc, cet épisode prend un relief tout particulier dans le contexte politique actuel de stigmatisation de l'islam. Car même en attribuant ce qui n'est pas prouvé, une dimension provocatrice à l'attitude des lycéennes, ce ne serait finalement qu'une juste et bien modeste réponse aux provocations érigées en politique d'État dont fait l'objet toute une partie de la population française. du débat sur l'identité nationale à celui sur la laïcité lancé par l'UMP, en passant par la récente loi sur l'immigration jusqu'aux attaques verbales ouvertement racistes entendues ces derniers mois dans la bouche des plus hauts responsables politiques du pays, tout est mis en œuvre pour attiser la haine contre les musulmans. Dans cette stratégie fondée sur les fantasmes et les phobies, il y a tout lieu de s'interroger du rôle que l'école est amenée à jouer, avec la complicité de quelques-uns de ses acteurs. Au ministère de l'Éducation nationale, on s'active sur une circulaire visant à interdire à des mères de famille portant le foulard d'accompagner les sorties scolaires. De plus, c'est pas fini, parce qu'il y a aussi le Haut Conseil de l'intégration qui apparaît aujourd'hui comme le fer de lance de l'islamophobie et qui n'en finit pas de publier des rapports alarmistes et fantaisistes qui font de l'immigration nécessairement inassimilable la source de tous les dysfonctionnements de l'école. Voilà, les chefs d'établissement appliquent sans broncher, plus préoccupés par la prime de fin d'année qu'on leur fait miroiter que par un peu d'esprit critique et de bon sens. Et heureusement, dans tout ça, il y a une pétition qui a été écrite par des professeurs de la région parisienne pour soutenir les élèves et qui est particulièrement classe et qui dénonce à juste titre la politique islamophobe de l'école et de notre État.
Et la pétition, on peut la signer encore, peut-être ?
Elle n'est pas signée en ligne, mais elle a circulé, je pense, plus dans les écoles.
Ok. Et on continue avec On en rigole. Ça se passe en deux temps. D'abord aux Canaries, aux îles Canaries, et ensuite au Panama. Aux Canaries, il y a pas longtemps le carnaval, et le consul du Panama, pendant le carnaval, il s'était habillé en femme. Je crois qu'il avait une robe et des boucles d'oreilles. Enfin. Et donc c'était la fête et tout le monde était content. Et après il y a des photos du carnaval qui sont passées, qui ont été publiées au Panama et qui ont fait scandale. Et donc le consul a dû d'abord présenter ses excuses, enfin des excuses. Il a dit je regrette vraiment, je me suis totalement trompé en tant que consul du Panama. La représentation de mon pays va au-delà des coutumes sociales de la communauté canarienne. C'est une erreur qui ne se reproduira pas et je présente mes excuses. Donc c'était déjà pas mal pour. Un mec qui s'était mis, enfin qui était sorti avec une robe quoi. Et en plus ça a pas suffi, il a dû carrément démissionner. Pendant cette affaire là, il y a eu deux réactions. Il y a eu une réaction de Ricardo Martinelli, c'est le chef de l'État panaméen de droite, qui a dit il n'aurait pas dû faire cela. Donc c'est à la fois un peu clair et assez sobre. Et puis il y a le secrétaire général du Parti révolutionnaire démocratique qui a dit visiblement on a affaire à un gouvernement de fous, à moins que ce soit de folles. Voilà.
No comment.
Le comportement homosexuel est évidemment une menace pour l'humanité. Une menace pour l'humanité.
Alors, le 18 mars à Lyon avaient lieu les assises de la prostitution. L'équipe de On n'est pas des cadeaux y était. Et cette émission est donc l'occasion de faire un petit compte-rendu de ces rencontres, axé notamment sur les questions de pénalisation des clients et sur la situation d'harcèlement à Lyon. On va commencer par écouter une synthèse qui est la conférence de presse en fait et le début de la conférence de presse, une synthèse de tout ce qui s'est déroulé pendant cette journée et c'est Sarah Marie Maffezoli de Stras qui fait cette synthèse.
Je vais donc tâcher de faire une synthèse aussi brève que possible de cette journée des assises. Alors, je voulais en premier lieu revenir sur ce qui a été dit ce matin et rappeler que les assises de la prostitution ne sont pas seulement le lieu pour faire un bilan de la loi sécurité intérieure qui a été adoptée en 2003 et qui a restauré le délit de racolage passif, mais également une plateforme de revendication. Nous sommes revenus également sur la mission parlementaire qui a été instituée suite au livre, à la proposition de Chantal Brunel de rouvrir les maisons closes et donc qui va vraisemblablement proposer la pénalisation des clients. Nous avons donc rappelé que il y avait un gros risque qu'il s'agisse des maisons closes ou de la pénalisation des clients et que les travailleurs du sexe ne veulent ni l'un ni l'autre. Il est nécessaire qu'un travail soit fait avec eux. La première revendication exprimée, quelle que soit la question, est que les travailleurs du sexe soient écoutés et entendus. Ils ne veulent plus de ces auditions qui servent de caution, mais une véritable collaboration quand il s'agit de questions qui les concernent. Il y a eu ensuite tout au long de la journée des ateliers. Le premier atelier concernait les travailleurs du sexe, acteurs de prévention auprès des clients. Il a été rappelé pendant cet atelier que les travailleurs du sexe sont assez sensibilisés aux questions d'IST et autres, mais que la vulnérabilisation peut les conduire à prendre des risques. D'où l'importance de sensibiliser les clients. Certaines associations communautaires font d'ailleurs des guides à l'attention des clients pour les sensibiliser. Le deuxième atelier était sur exercer dans la rue. Un état des lieux dans chaque ville a été fait. Et des revendications communes ont émergé. Notamment la volonté pour les travailleurs du sexe d'avoir un terrain sur lequel ils pourraient exercer. L'abrogation du proxénétisme de soutien. Que les plaintes déposées soient prises en compte par la police. En somme, la revendication qui a été la plus importante et qui regroupe toutes celles-là est celle de pouvoir travailler en paix. Sur l'exercice du travail sexuel sur Internet, il a été constaté que la répression était inégale pour l'instant selon la région. Et les revendications qui ont émergé n'étaient pas spécifiques à Internet, mais communes avec toutes les revendications des autres travailleurs du sexe. En ce qui concerne l'atelier solidarité dans le travail du sexe, il a été souligné que Lilian Mathieu parle de l'absence de solidarité comme constat sociologique, et pourtant, la réalité prouve le contraire. Mais il y a quand même des freins à cette solidarité, notamment les lois sur le proxénétisme, la barrière de la langue et les étiquettes sociales, la catégorisation divise. Il est donc nécessaire de favoriser la solidarité et pour cela de favoriser les échanges, les rencontres. Plus il y a de liens, plus il y a de solidarité. Je ne vais pas revenir longuement sur l'atelier qui a concerné le STRAS, mais simplement rappeler que l'année dernière, lors de l'organisation des assises à Paris, au Sénat, Henriette Zoukebi, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, avait écrit un article dénonçant les organisateurs des assises comme étant des proxénètes déguisés en prostituées. Le STRAS a porté plainte pour diffamation. Pour l'instant, nous avons obtenu une décision favorable puisqu'elle a été condamnée, bien que cette décision ait fait l'objet d'un appel, et donc la bataille juridictionnelle continue. Il y a eu également un atelier sur l'accès aux soins. Il a été souligné que des attaques massives contre l'accès aux soins des migrants ont été introduites dans les lois, et que cela fragilise ceux qui tentent de les aider dans le non-jugement et le respect de leurs choix. La situation est très inquiétante. En ce qui concerne les violences à l'encontre des travailleurs du sexe, les agresseurs se sentent en toute impunité, et notamment parce que souvent la police vient trop tard, parce que les plaintes également ne sont pas prises en compte. Et il a été également rappelé que la violence vient aussi de la police, qu'il s'agisse de la violence de la verbalisation constante, de la violence de la garde à vue abusive, des violences commises en garde à vue, qui peuvent aller bien évidemment jusqu'au viol. Il est important de dénoncer cette violence, mais également de faire des actions de formation auprès de la police. Les travailleurs du sexe sont le mieux placés pour faire ces actions de formation, et ce qui me permet de rappeler que de manière générale, en matière de formation, également des travailleurs sociaux, quand il s'agit des questions de travail du sexe, les travailleurs du sexe sont les mieux placés pour faire ces formations, et qu'il serait important que enfin ils soient reconnus, contrairement à certaines associations qui exercent toutes ces formations. Sur l'atelier sur nos droits, nous sommes revenus sur essentiellement la question des droits sociaux et fiscaux et sur l'obligation de déclarer ses revenus et de payer les charges sociales. Nous avons rappelé l'intérêt symbolique de déclarer ses revenus, notamment sur le long terme, pour ne pas s'exclure de la société, quand bien même celle-ci ne voudrait pas des travailleurs du sexe. Mais il y a également un intérêt pratique, puisque cela peut favoriser l'accès à la retraite. Mais, et c'est nécessaire de le rappeler, la déclaration des revenus doit être bien faite. Il est nécessaire de bien y réfléchir et d'être accompagné pour la faire. Et nous sommes également revenus sur les arrêtés municipaux, ce qu'il est important de souligner ici, à Lyon particulièrement, puisque le dernier arrêté municipal a été attaqué. Il semble assez clairement illégal. Nous espérons une décision favorable du tribunal administratif. Et il est important que partout où des arrêtés municipaux anti-prostitution sont pris, ils soient attaqués. Sur la pénalisation des clients, non, c'est l'accès au logement d'abord, excusez-moi. Il a été souligné qu'il y a de nombreux freins dans l'accès au logement, notamment la stigmatisation, d'où l'importance de lutter contre celle-ci. Et enfin, sur la pénalisation des clients, il a été rappelé, comme nous l'avons toujours dit et comme nous l'avons toujours rappelé, que la pénalisation des clients est la prohibition de la prostitution, que ce sera ineffectif vis-à-vis des clients et que ce seront encore les travailleurs du sexe qui paieront les pots cassés. Que sur le point des droits de l'homme, cela pose la question de la liberté sexuelle de toute personne. Les clients ne sont pas les agresseurs. Si l'on pénalise les clients, il y aura une fois de plus un crime sans victime. On nie par là le rôle social également des travailleurs du sexe. Ce serait une loi symbolique pour quelques féministes d'arrière-garde qui s'inquiètent plus d'elles-mêmes que de la cause de toutes les femmes. Voilà donc ce qui a été dit tout au long de cette journée.
On est toujours On n'est pas des cadeaux, l'émission Transpédagogine de Radio Canu, la plus rebelle et radio. On va faire une petite pause musicale tout de suite avec Sexy Sushi, T'enflamme pas pétasse.
Avec ton air de salope.
Et maintenant, on va continuer en parlant un peu du Stras. On va revenir là-dessus. Alors, je vais faire un petit historique pour que tout le monde remette tout le monde à jour et à niveau. Donc, le Stras, c'est bien évidemment le syndicat du travail sexuel, qui est un syndicat autogéré et qui existe en France depuis le 20 mars 2009. Pourquoi le 20 mars 2009 ? En fait, il a été inauguré lors des assises européennes de la prostitution de 2009, en présence de nombreuses délégations d'associations de défense des droits des travailleuses du sexe du monde entier. Donc, il y avait Espagne, Belgique, Suisse, Italie, Égypte, Canada, Mexique. Voilà, venus apporter leur soutien et témoigner de leurs conditions d'exercice et de leurs expériences diverses face à la répression. Et à partir de ce moment-là, en France, les travailleuses du sexe ont dit que c'était vraiment important de créer un syndicat pour faire accepter dans l'opinion publique que le travail du sexe est un travail. La prostitution est un travail. Donc, il défend bien évidemment le droit des travailleuses du sexe, c'est-à-dire principalement des prostituées, mais aussi des escort girls et des escort boys, des acteurs pornographiques et des opérateurs de téléphonie rose. Ce syndicat a été conçu comme un outil au service de l'auto-organisation des travailleurs du sexe. Il vise à l'abrogation de la loi pour la sécurité intérieure de 2003, qui a interdit le racolage passif, et en 2011, contre le projet de pénalisation des clients. Il a également pour objectif de lutter contre la discrimination et la marginalisation dont souffrent les travailleurs du sexe, en revendiquant notamment des statuts professionnels permettant d'assurer leur protection sociale et leur retraite. Il cherche aussi à permettre aux travailleurs du sexe de reprendre la parole dans le débat public sur leur activité professionnelle. Donc, ses fondateurs estiment en effet qu'on ne leur accorde pas assez la parole au profit d'autres intervenants présentés comme des spécialistes du sujet. Et forcément, les spécialistes, c'est les abolitionnistes, les catholiques et les médecins. Donc, le Stras a des porte-paroles et espère ainsi aider toutes les travailleuses du sexe à lutter contre l'opprobre moral à l'encontre de leur activité. Voilà. Voilà, le Stras se propose également de lutter contre le proxénétisme, l'esclavage, le trafic des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants, en étant un lieu de réflexion et d'élaboration d'une prostitution autogérée et choisie. Et notamment, il y a eu la piste de la création de coopératives composées de travailleurs s'associant librement, a d'ailleurs été soulevée lors de sa journée d'inauguration.
Et alors, donc, pendant les assises cette année, c'était un peu l'occasion d'un bilan du Stras au bout de deux ans. Et notamment, une des grandes étapes, d'un des derniers événements, c'était un peu une victoire judiciaire du Stras. En fait, c'était le 17 février dernier, le tribunal de grande instance de Paris qui a reconnu Henriette Zougabi, donc qui est vice-présidente du conseil régional d'Île-de-France, et membre du Conseil national du PCF, elle est, donc le TGI l'a reconnue coupable de diffamation. En fait, donc ça remonte aux assises de l'an dernier, en 2010. Henriette Zougabi avait publié sur son blog un texte dans lequel elle signalait que l'Assemblée nationale avait mis en place un filtrage pour empêcher toute connexion aux sites pornographiques et pédocriminels. Et je cite, « brimer certains députés pour y répondre positivement à l'invitation de la sénatrice des Verts, Halima Boumediene Thierry, qui nous convie à participer aux assises de la prostitution le 24 mars prochain. » Donc en fait, c'est parce que les assises l'an dernier avaient pu se faire au Sénat par le soutien de cette sénatrice des Verts. Et donc Henriette Zougabi continue, « nous pouvons remercier Sarkozy d'avoir offert aux proxénètes déguisés en prostituées ou en alliés des prostituées une clé magique qui leur ouvre toutes les portes, notamment celle du Sénat. » Donc, c'est un peu dommage quand même, parce qu'elle parle de pornographie, mais c'est pour se plaindre, et là je cite encore, qu'on ne parle pas de prostitution filmée, mais de pornographie, comme si une caméra magique transformait les victimes en actrices. Et de la même manière, elle parle de prostitution, mais pour qualifier le Stras et le collectif droit et prostitution, qui organisait les assises, de proxénètes déguisés en prostituées ou en alliés des prostituées. Et tout ça quand même au nom de la dignité humaine. Bon, c'est un peu gros, quoi. Et donc le Stras avait réagi, s'était portée partie civile et avait poursuivi Henriette Zougabi pour diffamation. Et donc elle a été condamnée à 500 euros d'amende avec sursis, 1500 euros de frais de justice et 1 euro de dommages à intérêts. Tout ça au Stras et le retrait de son texte du blog. Mais en fait, je pense que comme moi j'ai trouvé ce texte-là cette semaine, je crois que c'est... À moins que ce soit pas le bon texte, mais il n'est pas encore complètement retiré. Et donc le Stras avait fait un communiqué le 2 mars dernier. Je cite, le Stras prend acte de cette décision qui renforce sa détermination à défendre les intérêts de toutes les travailleuses du sexe et leurs alliés qui luttent pour leurs droits. Les assises de la prostitution sont une des trois rares occasions de rassemblement national des travailleurs du sexe. Et cette année encore, le Stras participera à cet événement le 18 et 19 mars prochain à Lyon, ne le plaise à Madame Zoughebi. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, ça a été encore. Plus généralement, un moment. Enfin, oui, pour faire. Il y avait un atelier là-dessus sur le Stras pour faire un bilan sur où ça en est, en fait, par rapport au projet il y a deux ans lors de sa constitution.
On peut dire que c'est un syndicat qui est tout jeune, quoi. Qui est deux ans, c'est vraiment peu de temps pour avoir. Pour construire un syndicat. Donc, il y a encore beaucoup de choses à construire. En tout cas, une des choses qui était dite, qui ressort pas mal, c'est sur les porte-paroles et que ça marche assez bien. C'est-à-dire que les médias, ils ont vraiment capté qu'existait le Stras. Et maintenant, à plein de moments, au lieu de demander sur des trucs d'infos générales à des associations qui luttent pour les travailleuses du sexe, ils vont aussi demander aux porte-paroles du Stras. Et donc ça marche plutôt bien.
Bah oui, puis ils publient régulièrement des communiqués, ils réagissent. C'est la possibilité de réagir, d'exister d'avoir une parole quand il y a toutes les propositions qui reviennent souvent, de réouvrir les maisons closes, de poursuivre les réseaux et les trucs comme ça. Enfin, qu'il y a une parole des travailleurs du sexe. Et du coup, ça, il y avait un peu un consensus sur le fait que c'est un objectif qui est déjà en partie atteint. Et il y a une autre chose qu'Iliel voulait plus développer, c'était peut-être la partie plus syndicat, classique comme les syndicats qui existent déjà, du coup de soutien un peu direct avec les travailleurs du sexe, le fait de vraiment construire un réseau, de pouvoir travailler ensemble, relayer les informations, soutenir dans les démarches juridiques, puisque là il y a quand même une première victoire judiciaire. Et voilà, c'était un peu l'autre côté qui est encore à développer.
Il y a une partie du syndicat, donc plus lobbying, ce qu'on vient de raconter, et effectivement, pas faire du recrutement, c'est pas du tout la question, mais effectivement, augmenter le nombre de membres, parce que pour l'instant, en 2011, là, je crois, il y a 300 membres, et faire qu'il y ait plus de membres pour que, justement, le syndicat soit au mieux représenté par toutes les travailleuses du sexe. Et y a une idée pour ça aussi de ce qui ressortait de ils vont peut-être mettre en place une newsletter qui sera parce que en fait ce qu'il faut imaginer c'est que y a quand même en France pas mal d'assos qui luttent avec les travailleuses du sexe et dans certaines où elles sont ce sont les travailleuses du sexe qui font l'association et donc ça c'est dans plein de villes des moyens de relayer en fait les infos du Stras et donc là ce qui a peut-être ce qui va se coordonner dans les années qui viennent c'est ce lien entre les assos et le Stras en lui-même pour qu'il y ait pareil beaucoup plus de représentativité, augmenter le nombre de personnes, etc., etc., quoi.
Donc qu'ils puissent bien développer une action complémentaire en fait.
Et c'est vraiment complémentaire, oui.
Et enfin constituer des réseaux qui existent déjà en fait, mais les renforcer. Voilà. Et donc
pour le petit point du Stras.
Petit point Stras. Petit point suivant, c'était un des grands thèmes qui a été discuté pendant les assises cette année, c'était le projet de pénalisation des clients. En fait, c'est un projet un peu ancien parce que par exemple c'est une proposition du Mouvement d'Uni, donc c'est une association abolitionniste qui se donne pour objet de construire un monde sans prostitution, ça c'est une citation, et qui a déjà fait des articles, des dossiers dans sa revue sur des propositions pour pénaliser les clients. C'était aussi une proposition, par exemple, de Ségolène Royal en 2005, elle avait dit dans Paris Match, attention, la prostitution et l'esclavage, et du coup elle avait mis dans son programme, je crois, en 2007. Et en fait, donc c'est un truc un peu récurrent. Il y a, je pense, un peu deux principes. C'est un truc, enfin le principe que c'est les clients qui sont responsables de la prostitution, de l'existence de la prostitution, et du coup, enfin le fait de les appeler souvent les prostitueurs, alors que les personnes qui se prostituent en fait sont toutes des victimes des clients. Et donc, comme c'est dans une perspective abolitionniste, pour pouvoir lutter contre la prostitution, il faut pouvoir lutter contre les clients et pas contre les prostituées. Donc, dans ce cas-là, enfin en fait, l'enjeu c'est plus la prostitution et le principe de l'existence de la prostitution. Quelle que soit, enfin, ses pensées partout et tout le temps, sous toutes ces formes, enfin, toutes les formes qu'on peut, par lesquelles on peut l'exercer, pour toutes les personnes qui l'exercent. Et la prostitution, c'est ça qui pose problème. Et on en parle plus que les personnes qui se prostituent, qui, en fait, elles, n'ont pas vraiment le droit, la possibilité de parler, dans ce cas-là. Et puis, pour appuyer ça, il y a aussi un principe juridique, c'est la condamnation de la prostitution comme une forme d'exploitation, et donc la responsabilité des États dans cette condamnation, en fait, ça se repose sur le protocole de Palerme, qui a été signé en décembre 2000. C'est un protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et qui vise à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et réaffirme le devoir de protection des États à l'égard des victimes de la traite. Donc, à partir du moment où on pense que la prostitution, c'est une forme d'exploitation, il y a la revendication pour ces mouvements, enfin pour ces personnes, d'appliquer la convention et donc de poursuivre les clients en tant qu'ils sont les responsables de l'exploitation. Et du coup, il y a aussi un truc qui revient souvent avec les débats sur la pénalisation des clients, c'est la référence au modèle suédois. En fait, en Suède, je crois que pour l'instant, c'est le seul pays au monde, en tout cas, c'était le premier, en 99, a voté une loi qui criminalisait les clients de la prostitution pour ne pas criminaliser les personnes qui se prostituent. Donc, c'est pas ça le problème au départ, mais en fait, ça vient un peu du fait qu'en Suède, il y a un féminisme d'État important, si on peut dire, qui n'est pas non plus un problème en soi, mais sauf que ça vient avec le fait que les mouvements de travailleurs du sexe sont plutôt faibles. Et donc, la proposition a été élaborée et appliquée par des groupes qui n'ont pas pris en compte leur situation et ce que ça veut dire. Et donc, en 2001, par exemple, il y a bien des clients qui ont été condamnés. Et je crois qu'il y avait plus de 160 personnes qui ont été arrêtées, 67 relâchées par manque de preuves, 43 personnes qui ont été jugées et 25 reconnues coupables qui ont dû payer des amendes. Mais en fait, la prostitution n'a pas disparu. Par contre, les conditions de travail se sont détériorées, puisque les travailleurs du sexe doivent se cacher. Celles qui continuent à travailler dans la rue n'ont pas forcément... Enfin, ça, on va en reparler, le réentendre, mais n'ont pas forcément les moyens de travailler de manière un peu sécurisée, ou comme ils le choisissent. Et la police en vient à chercher un peu n'importe quoi comme preuve de prostitution, enfin, contre les clients, mais comme, par exemple, le fait d'avoir des préservatifs sur soi, c'est le fait qu'on va... On cherche à fréquenter des prostituées et que donc on est client, donc on est arrêté, donc on est condamné. Voilà. Donc en France, c'est un débat un peu régulier. Il y a des propositions, il y a un moment, mais qui reviennent. Et le 16 juin 2010, l'an dernier, il y a une commission, la commission des lois, qui a mis en place une mission d'information sur la prostitution en France. Donc une mission d'information sur la prostitution en général, qui a commencé son travail en juillet 2010 et qui a nommé parmi les membres de la commission Daniel Bousquet comme président. Donc elle est députée PS des Côtes d'Armor, et Guy Geoffroy, qui est le rapporteur, il est député UMP en Seine-et-Marne. Et cette commission, elle a fait notamment beaucoup d'auditions, elle a rencontré des gens. Par exemple, elle était venue à Lyon, Daniel Bousquet et Guy Geoffroy étaient venus à Lyon le 16 décembre 2010. On en avait parlé parce que ça tombait pile la veille de la journée mondiale de lutte contre les violences faites au travail et au travers du sexe. Donc c'était... ça allait bien ensemble, parce que c'était sur le même thème. Ils étaient venus pour rencontrer, un sous-préfet, des avocats, des policiers, des travailleurs sociaux, des associatifs, et un peu des personnes prostituées, mais par exemple pas le collectif des personnes prostituées de Gerland, dont on va reparler, qui, pour le coup, aurait pu dire des trucs un peu intéressants. Il y a des auditions, des réflexions qui ont continué. Et puis, le 30 avril, donc avant-hier, il y avait la dernière audition de la commission avec Roselyne Bachelot qui a dit en sortant que, donc elle a dit dans un article dans Le Parisien, il faut punir les clients des prostituées. Donc c'est vraiment la mission d'information, elle est devenue une mission pour préparer le projet de pénalisation des clients. Et donc c'était quelque chose qui était beaucoup débattu pendant le... Enfin, débattu, pas vraiment au sens où ça faisait débat, mais plutôt où c'était un enjeu.
Oui, c'était vraiment le thème des assises 2011.
Comme c'est peut-être le prochain grand changement pour la situation des travailleurs du sexe. Donc on va écouter, là, c'est à nouveau un extrait de la conférence de presse qui avait lieu à la fin, avec Malika d'abord, qui est au collectif Droit et Prostitution, ensuite Cécile d'Actup et Miguel-Ange d'Arcat, et Thierry Dustras.
Fin mars va sortir une mission, le rapport de la mission d'information parlementaire sur la prostitution en France, donc qui a été créé par la commission des lois de l'Assemblée nationale du 16 juin dernier. Cette mission d'information n'est pas à l'origine, ne devait pas être pour la pénalisation des clients, mais on s'attend à ce que ce soit la proposition qui en ressorte, étant donné les déclarations de Madame Danielle Bousquet à la presse. Pour eux, enfin pour Danielle Bousquet, la prostitution c'est un triptyque avec comme un des pieds majeurs le client. Et le député Geoffroy se charge de détailler ce triptyque. Il explique, je cite, « Il y a d'abord la personne prostituée qui est la victime. C'est le point de départ que nous estimons le plus solide. Il y a ensuite, à côté, une pression évidente de la part des proxénètes et de réseaux dans la grande majorité des cas. Et jusqu'à maintenant, il manque un troisième acteur, le client prostitueur. C'est pour nous, il faut le réintégrer. » Donc quand Monsieur Geoffroy et Madame Bousquet parlent de réintégrer le client dans le triptyque, il ne s'agit pas de faire de la prévention ciblée auprès des clients contre le VIH ou les maladies sexuellement transmissibles. Je rappelle qu'en France, il n'y a absolument aucune politique de prévention envers les clients. Quand on pense aux clients, on y pense d'une manière répressive, ce qui est une aberration totale. Ça a été dit aujourd'hui. Si on dénonce la loi sur le racolage, c'est parce que ça oblige les prostituées à se cacher. Si on pénalise les clients, c'est exactement la même chose. Les prostituées vont aller se cacher avec leurs clients dans des endroits isolés, s'éloigner des structures de prévention, etc., etc. Ça fait depuis 2003 qu'on dénonce ça. On est vraiment là, c'est vraiment la politique de l'absurde, quoi. Et on a été reçus par cette mission parlementaire, nous qui sommes accusés d'être néo-réglementaristes, post-réglementaristes, ce que vous voulez, on a été auditionnés, mais on a fait le bilan de tout ce qu'on savait sur la prostitution, et la seule question vraiment qui les intéressait, c'était de savoir quelle était notre position par rapport à la prostitution, et de savoir ce qu'il en était de la dignité de la femme. Donc il y avait quand même une tendance abolitionniste très forte. On est très pessimiste par rapport à cette mission. La pénalisation du client, c'est non. Et donc on attend avec impatience ce rapport fin mars.
Voilà maintenant 8 ans que la loi pour la sécurité intérieure, dite LSI, est en vigueur. 8 années que les prostituées sont considérées comme des délinquantes et reléguées au banc de la société. Avant même l'entrée en vigueur de l'article pénalisant le racolage passif, les associations de santé communautaire, les associations de lutte contre le sida et les travailleuses du sexe mettaient en garde les pouvoirs publics sur les conséquences sanitaires de cet article. Ces mêmes associations œuvrent toujours sur les lieux de prostitution et continuent à voir les dégâts causés par cet article, tant sur la santé publique que sur l'accès aux soins et aux droits des prostituées. Pour certains, la prostitution aurait disparu des rues, mais en réalité, elle s'est juste déplacée. Hors de nos villes, vers des zones de non-droit, loin des yeux des passants. Ce déplacement a eu pour conséquence une précarisation des travailleuses du sexe, qui amène certains d'entre eux à accepter des prestations sexuelles sans préservatif, afin de pouvoir subvenir à leurs besoins élémentaires, tels que se loger, se nourrir et se soigner. Depuis 2003, les prostituées en situation de grande précarité expriment clairement la difficulté de négocier l'utilisation du préservatif avec certains clients. Dans de nombreuses situations, le ou la prostituée ne peut plus choisir son client et de ce fait est placée dans un contexte de grande vulnérabilité face au VIH-SIDA et face aux autres IST. Les mouvements abolitionnistes dénoncent eux aussi depuis 2003 les conséquences gravissimes liées à la criminalisation des prostituées, mais aujourd'hui c'est aux clients qui souhaitent s'attaquer. Pour eux, les clients sont des prostitueurs qu'il faudrait pénaliser, partant de l'idée que l'absence de demande permettrait de faire disparaître l'offre.
Ce souhait de faire disparaître les clients aura sans aucun doute le même effet que l'article pénalisant les prostituées. Les personnes exerçant la prostitution devront se rendre encore moins visibles qu'aujourd'hui afin de pouvoir continuer à gagner leur vie. Cette invisibilité, induite cette fois-ci par la traque des clients, aura des conséquences sanitaires catastrophiques et mènera à la création de nouveaux réseaux de proxénétisme. La rareté du client entraînera la création de nouveaux lieux d'exercice du travail du sexe et en aucun cas sa disparition. Ces nouveaux lieux seront chaque jour moins visibles et donc moins accessibles aux associations de terrain. Cela va provoquer, à nouveau, un éloignement des prostituées, des structures de prévention, de dépistage, d'accès aux soins et aux droits. Les abolitionnistes peuvent-ils comprendre qu'en luttant contre les clients, c'est bien les prostituées qu'ils mettent en danger ? Voilà déjà 8 ans. 8 ans, c'est long. 8 ans que nous alertons les pouvoirs publics sur les conséquences sanitaires liées à la loi sécurité intérieure. Certaines associations dites abolitionnistes ont récemment décidé enfin de se pencher sur la question de la santé des prostituées en souhaitant mettre en place une étude à l'échelle nationale. En effet, elles font enfin le constat d'une dégradation de l'état de santé ces dernières années des personnes exerçant la prostitution. Lutter contre les clients ne fera qu'augmenter la précarité des prostituées et donc ne les rendra que plus vulnérables, tant sur le plan physique que psychique. Lutter contre les clients augmentera les risques de transmission d'infections sexuellement transmissibles, remettra en cause des années de travail de prévention de terrain et signera un retour en arrière des actions de lutte contre le sida auprès d'un public identifié comme vulnérable par le soi-disant ministère de la Santé. Ces mesures s'ajouteront aux mesures répressives qui rendent caduques les bonnes intentions affichées dans le plan national de lutte contre le VIH-SIDA et les IST. Les prostituées ne sont pas vulnérables parce qu'elles exercent la prostitution. Ce sont leurs conditions d'exercice de la prostitution, les lois qui les criminalisent et celles qui souhaitent criminaliser les clients qui les rendent véritablement vulnérables. Merci.
Je pense que bon, il y a beaucoup de problèmes dans la communauté. Vous savez qu'il y a la répression du racolage, le fait que nos droits ne sont pas reconnus. Alors bon, les droits du travail, mais je ne parle même pas en termes de droits humains encore aussi. Mais s'il y a un truc, enfin s'il y a une revendication qu'il faudrait vraiment retenir peut-être de ces assises, je pense que ce serait vraiment celle de que les travailleurs du sexe en France disent non à la pénalisation des clients. Le fait qu'on soit ici à Lyon, je voudrais aussi le mettre dans le contexte de cette ville et souligner l'hypocrisie du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste donc inclut la pénalisation des clients dans son programme pour les élections de 2012, considérant que nous serions des victimes qu'il faut protéger, donc passer la pénalisation de nous, pauvres victimes, à nos soi-disant agresseurs, etc. Sauf que ici, dans le cas lyonnais, le même Parti Socialiste à la mairie de Lyon depuis que Gérard Collomb est maire, n'a pas l'air d'avoir de problème de conscience pour pénaliser les prostituées à coup d'amendes, de répression, de camionnettes à la fourrière, etc. Cette pénalisation des clients, effectivement, c'est nous pénaliser, nous, comme l'ont souligné les associations de santé communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire potentiellement une baisse de revenus, ça veut dire ne plus avoir le temps d'imposer ces conditions quand on négocie avec les clients avant de monter dans la voiture, ça veut dire monter directement dans la voiture, ça veut dire que on ne sait pas si le client il est nerveux, pourquoi ? Parce que il a peur que ce soit les flics à côté, ou c'est parce qu'il a quelque chose dans la tête et qu'il veut, il est potentiellement dangereux. Comment on fait pour améliorer notre sécurité si aussi il faut aller dans des endroits plus reculés, parce que le client évidemment a peur que dans un endroit où la police est présente, il soit arrêté. Comment on fait pour défendre ses droits quand effectivement on est pénalisé indirectement, enfin, en réalité je dirais plutôt directement par cette pénalisation des clients. Ce qu'il faut voir aussi au-delà de cette pénalisation des clients, c'est pas simplement aussi l'aspect répressif de la police, c'est aussi le symbole que ça signifie en termes de nous réduire, nous les travailleurs du sexe, un statut de victime, un statut de mineur légal. Concrètement, ça veut dire que l'État intervient dans la sexualité entre adultes consentants. C'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis la dépénalisation de l'homosexualité en 81. Et ça veut dire qu'on serait en train, le même Parti Socialiste reviendrait en arrière en disant non, là, entre ces personnes-là, nous allons intervenir pour dire que ces personnes-là ne peuvent pas, ne sont pas capables d'exprimer leur consentement, et nous allons intervenir pour les protéger. En faisant ça, c'est faire augmenter la stigmatisation, c'est faire augmenter cette idée que nous serions trop bêtes, stupides, que nous serions pas capables de nous organiser politiquement, que nous serions des personnes à réhabiliter. Et c'est avec ça qu'on veut arrêter. On veut la fin de la réhabilitation, nous sommes des travailleurs, nous ne sommes pas des inadaptés sociaux. Je voudrais mettre ça aussi en relation avec tout ce discours soi-disant féministe qui défend la pénalisation des clients sur la question de, avec le parallèle sur la question du viol. Soi-disant que l'État devrait intervenir pour nous protéger parce que nous ne serions pas capables, parce que les clients seraient des potentiels violeurs, parce que l'argent serait le droit de nous violer. Cette question, je la trouve très dangereuse. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas capable d'exprimer ce consentement, mais concrètement, si vraiment ils nous parlaient à nous, si vraiment ils nous demandaient mais quelle est la différence entre le viol et un rapport consenti, nous on sait faire la différence. Et quand on va essayer de porter plainte pour viol, quel est le résultat? Le résultat, c'est que souvent les plaintes ne sont pas enregistrées, c'est que la police ne mène aucune enquête. Alors je voudrais savoir pourquoi ces personnes veulent arrêter les clients qui respectent le contrat, qui payent, alors que quand il y a des violeurs, quand il y a des hommes qui ne respectent pas le contrat, là par contre il n'y a personne derrière les prostituées pour lutter contre ça. Ce qu'on veut, c'est pas la pénalisation des clients, ce qu'on veut, c'est des droits. C'est la reconnaissance de notre travail, c'est la reconnaissance des droits du travail, c'est-à-dire en termes de retraite, de sécurité sociale, des droits égaux avec tous les autres travailleurs. Voilà, c'est pas compliqué. On veut sortir de ce système de prohibition, d'abolition qui nous considère comme des personnes à réhabiliter. Nous sommes des citoyens, nous sommes des travailleurs. Merci.
Voilà, donc toujours dans On n'est pas des cadeaux sur Radio Canu. On va passer maintenant plus au volet sur Lyon. Donc c'est pas pour rien que ces assises ont eu lieu à Lyon cette année, parce que Lyon depuis des années il y a une politique très répressive de la part et du préfet et de la municipalité et des flics pour stigmatiser et vraiment faire chier les travailleuses du sexe. Petit retour en arrière, donc c'est depuis 2002, la préfecture et le maire de Lyon s'enferment dans des stratégies répressives qui, outre les conséquences discriminatoires à l'encontre des personnes prostituées, n'a d'autre résultat que d'exaspérer des riverains, donc ceux de Perrache, ça c'était avant, et ceux de Gerland aujourd'hui, et lesquels demain. La municipalité de Lyon conduit une politique d'arrêtés municipaux, interdisant la prostitution ou le stationnement des camionnettes des travailleuses du sexe, repoussant les personnes de plus en plus loin du centre-ville. Donc ce qui se passe en fait, c'est que avant plutôt les personnes elles travaillaient à pied. Ensuite, il y a eu une telle répression qu'elles se sont mises à travailler en camionnette et que maintenant il y a des amendes, etc. sur les camionnettes et ils emmerdent au maximum les camionnettes et les endroits où sont stationnées les camionnettes. Sachant que, pour précision quand même, à Gerland, elles sont au bout de Gerland, qui n'est pas du tout une zone résidentielle. T'es d'accord?
Mais ça gêne aussi les entreprises de...
Mais voilà, alors comme elles travaillent la nuit, c'est censé pas déranger les entreprises, mais si, quand même, ça les dérange pour l'image de marque du secteur, plus qu'autre chose.
Les clients.
Et le fait qu'elles soient de plus en plus chassées du centre-ville, c'est que, là, il y a un grand enjeu sur Gerland, c'est que si elles sont chassées de Gerland, elles pourront aller où ailleurs? Et ça veut dire qu'elles vont être certainement chassées de Lyon. Et donc, il y a notamment, je voulais... lié à ça, c'est que le 12 mars, en Saône-et-Loire, il y a une prostituée qui a été retrouvée morte dans son fourgon près de Rully. Son corps portait une trentaine de coups de couteau. Donc c'est le meurtre, il a eu lieu le vendredi soir. La camionnette était garée dans un petit chemin à proximité d'une route départementale. Selon les enquêteurs, donc son mari ignorait toutes ses activités professionnelles. Normalement, il voulait pas se faire taxer de proxénète. Et donc ça, voilà, c'est une info relayée. C'est vraiment triste. Et c'est vraiment le problème du fait que plus il y aura de répression dans les centres-villes, plus les personnes vont devoir aller travailler loin. Et qui dit loin, dit être seul. Sur une nationale, sur une départementale. L'avantage dans le quartier Jarlan, c'est qu'elles sont, elles sont ensemble. Mmh. Et elles peuvent résister ensemble face à certains clients qui peuvent être des connards. Et que quand tu es seule sur une nationale, eh ben, ça, tu peux pas l'avoir. On va finir en écoutant Karen, qui est une prostituée de Jarlan, qui était venue d'ailleurs aussi dans cette émission, pareil, pendant les assises, qui parle.
Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Karen, je suis prostituée à Jarlan. Il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir. Nos luttes autour de la politique des arrêtés municipaux et les projets de la pénalisation des clients. En ce qui concerne les arrêtés municipaux, je vous fais un petit rappel vite fait de la situation. Été 2007, dans le quartier de Perrache, le préfet ordonne les premières expulsions des camionnettes avec une impressionnante pression des forces de police, manquait plus que le GIGN. Suite à ça, nous décidons de nous installer dans la zone d'activité de Jarlan. Les récriminations ne se sont pas fait attendre. Les riverains ont commencé à protester directement à la mairie sans nous avoir laissé la possibilité de nous exprimer ou de proposer des solutions. Le dialogue n'a pas pu se faire car la mairie a privilégié les récriminations des riverains et des entreprises. Un arrêté municipal a vu le jour en mai 2008, nous interdisant le stationnement sur le secteur du 7e et 8e arrondissement. Mais cette fois, pas question de partir, d'autant que l'arrêté municipal, à mon avis, n'est pas légal. J'y reviendrai. Ensemble, nous passons à l'offensive en les traînant devant les tribunaux. Mais le fait de contester l'arrêté municipal ne le suspend pas pour autant et les PV pleuvent, les mises en fourrière se multiplient à la grande satisfaction des autorités qui voient leurs caisses se renflouer. Pour vous donner une idée, une opération d'enlèvement à raison de 30 amendes de 35 euros et de 20 enlèvements de camionnettes à 146 euros fait un total de 3 770 euros. Vous comprenez pourquoi ils ne sont pas pressés de remettre cette politique en question. En juillet 2008, la décision de la justice a été de refuser de traiter l'affaire en urgence, renvoyant son examen à une date ultérieure. La pression policière s'est maintenue dans le quartier de Jarlan sur toute l'année 2008 et 2009. Nos tentatives de trouver des solutions sont restées vaines, alors que nous avons participé à l'organisation de médiation avec les riverains au centre social de Jarlan. Décembre 2009, un nouvel arrêté municipal étend le périmètre d'interdiction de stationnement à quelques rues supplémentaires du 7e arrondissement. Là encore, nous décidons de résister et pour toute réponse de leur part, nouvel arrêté municipal 6 mois plus tard, en mai 2010, que cette fois nous décidons de contester une deuxième fois devant le tribunal administratif. De mon point de vue, cet arrêté est illégal sur 3 points. Premièrement, il vise exclusivement les véhicules équipés pour le séjour ou une activité, mais concrètement, il ne vise pas la camionnette du peintre ou du maçon, mais uniquement la camionnette des prostituées. Il y a donc discrimination. Elle est donc discriminatoire dans la pratique. Deuxièmement, il ne comporte pas d'horaire et de date qui limite son effet, ce qui est normalement une obligation. Enfin, il concerne un secteur beaucoup trop étendu sur l'arrondissement. La semaine dernière, après un contrôle musclé où nous avions ordre de dégager, un flic m'a dit « Vous n'avez qu'à respecter la loi ». Mais qui est dans l'illégalité depuis le début ? Je me suis mis au grand jour afin de solliciter les politiques pour qu'ils nous apportent une aide dans nos conditions de travail et fait est de constater qu'ils ont répondu uniquement par la répression. J'ai sollicité les députés et les sénateurs par un courrier qui démontrait que si nous voulions avancer dans nos démarches, la loi 225.5 du Code pénal nous bloque puisqu'on condamne par de la prison même les personnes qui nous viennent en aide, alors qu'ils devraient se concentrer sur les personnes qui obligent ou contraignent les filles à se prostituer. Deux sénatrices m'ont répondu favorablement et je les en remercie. Mais il en faudrait beaucoup d'autres pour être entendus. Il me semble que c'est à nous que revient la parole quand le métier des prostituées est en cause. Peut-être que ces gens sont sourds, mais en tout cas pas muets, puisque la seule solution qu'ils apportent, c'est la pénalisation des clients. Nous ne vous avons pas demandé de nous sortir des trottoirs. Nous sommes des citoyens et citoyennes dans une démocratie où il me semble que quand on veut légiférer, on prend au moins la peine de consulter ses citoyens. Ce qui n'est pas le cas en ce qui nous concerne, malgré les différentes sollicitations des associations et de nous-mêmes à engager le dialogue pour trouver des solutions. Nous sommes la solution et non le problème. Aujourd'hui, tout est prétexte à pénaliser. Les prostituées se font agresser et on dit qu'il faut s'en prendre à nos clients. Dans ce cas, pénalisons tous les hommes puisqu'un nombre impressionnant de femmes sont victimes de violences morales et physiques de la part des hommes. La pénalisation n'arrêtera pas la prostitution, bien au contraire. Elle sera plus clandestine, plus difficile à exercer et va mettre encore plus en danger les travailleuses du sexe, rendant également plus compliqué le travail des associations. Nous avons entendu depuis peu que l'ouverture de maisons closes serait en vigueur. Or, toutes celles qui prennent la parole y sont fermement opposées puisqu'elles seront parquées à l'abri des regards indiscrets et encore moins écoutées. Le but étant de nous voir disparaître des rues et non de nous considérer comme des citoyennes à part entière. L'hypocrisie régnant en maître, on se demande si le but final n'est pas de prohiber les prostituées sans l'avouer. On se demande s'ils ne cherchent pas à interdire l'exercice de cette activité par des moyens détournés, comme pénaliser le stationnement, pénaliser le client, pénaliser le racolage, bref, nous interdire d'être des putes tout simplement. Putes nous sommes, putes nous resterons et jusqu'au bout nous lutterons. Merci.
Et pour finir, peut-être sur une note d'espoir, c'est que récemment, il y a eu un nouveau préfet, c'est-à-dire que avant il y avait Jacques Géraud qui était particulièrement extrêmement sévère en termes de politique contre les travailleuses du sexe, qui est parti au cabinet du ministre de la Défense rejoindre Alain Juppé, et donc maintenant c'est Jean-François Carenceau. Donc faudrait espérer que celui-ci soit un peu plus détendu sur la question des travailleuses du sexe.
On espère. Et voilà, donc les assises s'est terminé sur une manifestation le lendemain, samedi après-midi, où il y avait quand même pas mal de monde. C'était assez chouette, avec des gens un peu toute la France comme la veille. Et donc l'an prochain, il y aura probablement à nouveau les assises et la manifestation. On ne sait pas encore où ce sera, mais en attendant, si vous voulez soutenir le Stras, par exemple, c'est tout à fait possible d'être membre passif et donc de soutenir au moins financièrement.
L'agenda de la semaine.
De l'actualité de ce dimanche.
Le 28 juin, le 30 mars,
le 3 décembre.
Prochainement.
Alors, très rapidement, parce qu'on est à la bourre, l'agenda, il y a le jeudi 7 avril à 20h30 au Sonic, Festival des 5 ans du Sonic. Donc, c'est une entrée prix libre. Il y aura plusieurs groupes. Donc, Sonic, je répète, c'est en face du 4 Quai des Étroits, dans le 5e métro arrêt Perrache. Electricity in our homes, prix PIA. Et Réveil. Et c'est 7 ans chaussée qui organise ça. Aujourd'hui, demain et après-demain, c'est le SIDA Action. Le slogan de cette année, c'est face au SIDA. Chaque euro en plus peut faire la différence par rapport à tout ce qu'on a raconté tout à l'heure sur les baisses de subventions. Donc il y a un sens au SIDA Action. Notamment, il faut dire, le SIDA Action a soutenu financièrement les assises de la prostitution. Dans le cadre donc du SIDA Action, la LGP organise aujourd'hui à 20h une soirée de prévention par les sœurs de la perpétuelle indulgence. Ça sera au forum gay et lesbien. Donc le forum gay et lesbien, c'est dans le premier, 17 rue Romarin. Et le samedi 2 avril, il y aura une quiqueton par les sœurs de la perpétuelle indulgence également.
Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je crois.
Eh ben voilà, on n'est pas des cadeaux, ciao. On se retrouve dans 2 semaines, et la semaine prochaine, vous retrouverez l'équipe de Lilith Martine et les autres.